The Ethnic. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin F1. Mon nom est Abdou Sal et voici l'épisode numéro 56. Au menu cette semaine, nous revenons sur le Grand Prix de Russie, disputé cette fin de semaine à Sochi, mettant en vedette Lewis Hamilton, un peu de Netflix, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo et compagnie. Alors mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, car c'est un départ. Alors, on revient sur cet autre Grand Prix de Russie qui n'aura pas livré la marchandise. Et pour en parler, j'accueille avec moi Anna Maria Mercado López. Bonsoir ou bonjour, Anna Maria.
Bonsoir à tous.
Comment vas-tu?
Ça va bien. On survit.
Ouais, on survit parce que malheureusement, de notre côté, au Québec, Montréal, Québec, puis les Chaudières-Appalaches sont tombés en zone rouge. Donc, il y a eu des mesures de reconfinement partiel, même presque, on va pas dire complet parce qu'il y a encore des secteurs qui sont ouverts. Mais en gros, pas de socialisation physique pendant 28 jours. Alors, au moins, on peut se dire que pendant ces 28 jours, il y a de la Formule 1, entre autres le Grand Prix de l'Eifel en Nürburgring la semaine prochaine. Alors, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. C'est vrai que ça va être difficile, mais on a du sport et on a de la course automobile, entre autres. on a Marc-André Fortin qui malheureusement n'est pas là cette semaine. Il sera là lors du prochain épisode. Alors, de la zone rouge, on va passer... je ne sais pas si en Russie, il y a des codes de couleurs. Parce que lors de ce Grand Prix de Russie, eux, ils ont accueilli des fans à l'autodrome de Sochi. On parle de, je ne sais pas, à peu près 30 000 spectateurs. À vue d'œil, c'est comme s'il n'y avait pas de distanciation sociale, mais il y en avait au moins, donc ils ont respecté les mesures sanitaires. On espère qu'il n'y aura pas eu d'éclosion ou quoi que ce soit. On se croise les doigts, mais on peut dire que ça a été un succès pour le Grand Prix de Russie. Côté spectateurs, côté course, on a le résultat du Grand Prix de Russie qui devait passer à l'histoire. Alors, Valtteri Bottas a remporté le Grand Prix de Russie devant la Red Bull de Max Verstappen, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, en ce mercredi, au moment où on enregistre l'épisode. Et Lewis Hamilton finit troisième. Pourquoi? On vous le dira après. Sergio Perez sur la Racing Point termine quatrième. Donc, il y a plein de Mexicains qui sont contents en ce moment. Daniel Ricciardo, 5e sur la Renault. Charles Leclerc sur Ferrari, oui. Ferrari, 6e. Esteban Ocon termine 7e. Et ensuite, on a le héros local, Daniel Kvyat, 8e avec Pierre Gasly, 9e. Et pour compléter le top 10, Alexander Albon sur la Red Bull termine 10e. Ce fut un Grand Prix, bon, comme je l'ai dit, qui n'a pas livré la marchandise, mais on a eu des belles batailles, mais on a surtout du drame, parce que dès le départ, pour ceux qui se sont réveillés avec l'émission d'avant-course, on a vu Lewis Hamilton pratiquer deux fois ses arrêts à l'extérieur de la ligne à l'extérieur de la zone réservée pour pratiquer les départs, et il a été pénalisé durant l'épreuve alors qu'il menait le Grand Prix. Donc c'est deux fois 5 secondes de pénalité qu'il a servi lors de son seul et unique arrêt au puits. Et naturellement, Hamilton n'était pas très content de cette pénalité. Il est allé à peau de plein de tirades, que c'est de la bullshit, que c'est tout ça. Il a même dit après la course que la FIA essayait de l'arrêter. Évidemment, des propos qui n'ont pas plu à la FIA. Ça s'est rendu même jusqu'aux oreilles de Ross Brawn qui a dit à Lewis de se calmer un peu. Mais on va revenir entre autres sur ce moment qui a changé le cours du Grand Prix et qui a permis à Valtteri Bottas de gagner. Alors, Anna Maria, Hamilton doublement pénalisé, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une... Je pense que c'était une bonne décision.
Oui, si on parle de la pénalité comme telle, mais il y a pas discussion. C'est une bonne décision. C'était bien pris. On regarde pas les pilotes. On regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il était interdit. C'est clair. Et qu'à partir de là, il y a des choses qui se sont passées juste dans l'espace avant course. Quand il donne au pilote un espace pour faire les reconnaissances de la piste avant le tour de formation. Que pour ce côté-là, c'est bien, mais c'est dur parce que oui, 5 secondes, ça dépend, hein, ça coûte cher des fois. Si tu es pendant la course, si tu as comme un tour d'avance devant tout le monde, c'est pas grave, mais si tu commences la course avec, il faut que tu le fasses. Ouais, ça c'est un peu dérangeant, je dirais. En plus, l'équipe, je pense qu'il comptait avec un safety car ou quelque chose qui se passe, mais il ne s'est rien passé, c'est ça. Parce que l'arrêt, il était trop, 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 trop vite, je pense.
Oui, puis si je peux te dire aussi, je suis d'accord avec toi, la pénalité, de base, la pénalité, elle est amplement justifiée parce que t'as pas le droit de pratiquer ton arrêt, que ce soit à 20 ou 200 mètres. Pourquoi je parle de ces chiffres, je vais vous expliquer après. Peu importe où tu es, tu dois respecter la zone qui est justement réservée pour pratiquer tes départs quand tu sors de la ligne des puits. On le voit maintes fois lorsque les pilotes sortent de la ligne des puits pour des essais ou bien même pour justement le tour de reconnaissance. Ceci étant dit, je trouve que principalement Hamilton, oui, lui, c'est lui qui a la pénalité et tout, mais je pense qu'une bonne partie de la faute revient à Mercedes elle-même parce que, pour vous mettre en contexte, Hamilton a demandé, il y a trop de résidus de gomme de pneus dans la zone en question. Est-ce que je peux aller pratiquer mon arrêt un peu plus loin? Et t'as Peter Bonington, l'ingénieur de piste de Lewis Hamilton, qui dit AFM pour dire affirmatif. Alors, il sait ce qu'il va faire. Il ne le fait pas une, mais deux fois. Alors, évidemment, la FIA a regardé cela et a dit non, Lewis, toi, tu vas recevoir une pénalité de 10 secondes, de 2 fois 5 secondes, alors, parce que tu as commis l'infraction à deux reprises. Et ça a été la même chose. On en avait parlé aussi lors du Grand Prix d'Italie à Monza, quand Hamilton s'est fait pénaliser pour être rentré dans les puits.
Il est rentré à boxe avant que la ligne des puits est ouverte, il était fermé encore.
C'est ça. C'était la ligne des puits était fermée. Puis Antonio Giovinazzi aussi a été pénalisé pour la même infraction à Monza. Alors, c'est une erreur. Je trouve c'est une erreur grossière de la part de Mercedes d'avoir dit oui tu peux alors que les règles ne l'indiquent le contraire. Alors oui, Hamilton a une grande partie de la responsabilité, mais Mercedes en a une pour ne pas avoir porté attention à cela.
Mais dans ce cas-là, je fais pas comme on dit, l'équipe, oui, il y a manqué de jugement, mais c'est un sport d'équipe. On gagne ensemble, On prend la photo ensemble. Oui, l'équipe peut-être y a manqué, il a dit oui, mais peut-être l'ingénieur de piste était trop rapide. Et Hamilton il demande, il dit oui, si c'est sur les coups, il y a pas de temps à réfléchir non plus. Il faut se mettre en contexte. Et ça, c'est ça. Mais je dis, on prend la photo en équipe. On prend la victoire en équipe, c'est un sport d'équipe, c'est ça. Quand il y a une faute parce qu'ils n'ont pas bien mis une pneu, c'est ça, tout le monde est pénalisé, c'est pas juste les mécaniciens.
C'est ça, oui. Oui, exactement.
C'est ça, mais peut-être oui, lui a essayé, ils l'ont dit oui, mais quand même, c'est ça. On ne peut pas sortir, dire. En plus, Hamilton, il blâmait pas son équipe, il blâmait la FIA parce qu'il considérait qu'il n'était pas correct avec lui, que juste pour l'envoyer à l'arrière, mais c'est ça. Mais après qu'il s'est calmé, un jour après, puis il a réfléchi, il a dit qu'il n'était pas correct, que c'est ça. C'est une réaction au chaud.
Oui, exact, un show. Et justement, ça m'amène le point suivant, en fait, parce que vous vous souvenez quand j'ai dit que ce soit à 2 ou à 200 mètres, il ne faut pas le faire, mais il y a The Race, le site internet avec tous les anciens collaborateurs du magazine Autosport qui ont créé le site. Il y a Scott Mitchell. Qui a posé cette bonne question, qui a fait cette remarque. Parce que lors du Grand Prix de Belgique de cette année, il y a Charles Leclerc qui a commis presque la même faute, mais il n'a pas, il y a
Oui,
rien
presque.
eu. C'est ça, c'est presque la même faute, mais il n'a rien
Oui.
eu. Et là, on se demande, elle est où la transparence, elle est où la constance dans les règlements, parce que d'abord, oui, la pénalité à Hamilton est amplement justifiée parce que dans les règlements sportifs, je pense que c'était le règlement 19.2, 19.3 à peu près, où ils disent ça. La FIA l'a bien appliqué, mais quand c'était pour Charles Leclerc en Belgique, même si la ligne d'appui à Spa est totalement différente de Sochi parce que la ligne d'appui, c'est tout de suite après la source, le premier virage. Pourquoi? C'est une simple erreur d'Hamilton, mais pourquoi Leclerc n'a pas eu cette même pénalité?
Oui, mais c'est ça qu'il y a tout le temps, on revient à la même discussion. C'est pas question de règlement. La réglementation, y est faite, y est là. C'est juste au moment de l'application que ça change. Mais c'est quoi? On dit, non, c'est pas parce qu'ils sont pas les mêmes commissaires à chaque course. Oui, ils sont pas les mêmes, mais la réglementation, c'est la même. Et les directeurs de course, c'est toujours le même. Ça change pas. Mais je dis que la transparence de la FIA, il se met dans les trous parce qu'il fait penser qu'est-ce qu'on croit que ça dépend, c'est qui le pilote qui fait la faute. Après, il revient la pénalité. Parce que regarde, il y a plein de cas. Kimi Raikkonen, ça fait le Grand Prix de celui d'Italie qui était très accidenté. C'est celui de la Toscane
Ouais, notre Grand Prix de Toscane.
qui a reparti 2 fois. Le départ a arrêté comme 2 fois. Lui a tout survécu, mais après il s'est fait pénaliser parce que pour aller au puits. Il a dépassé un petit peu, il est passé sur la ligne blanche depuis. Un peu en retard, mais c'est pénalisé, c'est clair.
Ouais.
Dès qu'une auto il roule sur la ligne depuis, il est pénalisé. Mais c'est ça, mais il s'est passé 2 fois avec Hamilton en Allemagne. 12 années de suite. Une fois, lui, il voulait rentrer au puits et après, il a abandonné. Fait que hier comme rentré sur la ligne pour rentrer au puits, hier retourné dans la piste. Il y avait un sistica. Et la fille a dit no fault. Mais c'est clair, c'est une faute. C'est juste qu'il n'était pas pénalisé. Après, il s'était passé l'année dernière en Allemagne, il y avait la pluie, il y avait plein de crash, et Hamilton y a crashé et presque il pour revenir le plus rapide possible parce qu'il a crashé proche de puits. Il est sorti, presque percuté l'éclair, il est retourné, il traversait tous les circuits, il traversait la ligne de puits pour rentrer au puits, il s'est fait changer son aileron, il fait des travaux dans l'auto. Était correct? Non, il n'était pas correct, il n'y a aucune pénalité et rien qui s'est passé. C'est ça,
Oui,
il y a plein de cas.
je pense qu'il s'est fait pénaliser. Il a eu une pénalité de 5 secondes pour cela, en fait.
Pour cela, je ne sais pas, je
Ouais.
ne pense pas, parce que lui, il a fait comme lui. C'est une faute que même on a un drapeau noir, mais il a traversé toute la piste. Et juste après lui, Bottas y a crashé derrière. Tu sais, si ça se passe pendant que lui traverse la piste au complet, c'est la dangerosité de qu'est-ce qu'il a fait. Et il y en a plein de choses comme ça. La FIA qui pénalise, je ne sais pas, il a donné 5 secondes à Vettel ici au Canada, qu'elle a coûté la victoire juste parce que il disait que même s'il était un perdu, il était pas, il contrôlait pas l'auto. Il
Ouais.
disait que rentrer, comment réintégrer à la ligne de course, c'était dangereux.
Ouais, ça c'était
Après,
clair.
ça c'était, il dit que c'est dangereux, mais on dit, mais il y avait rien, Hamilton était derrière, il était clairement regardé. C'est ça, il y a plein de choses, et on dit, mais c'est juste, ça coûtait la victoire, personne n'était d'accord. Mais après, on arrive à Monza, Leclerc, il se bat avec Hamilton, il presque poussait Hamilton contre le mur, qui a fait un tout droit. Quand il intentait le dépasser, il y a eu rien. Mais le monde va me dire, oui, il y a eu le drapeau blanc et noir. Mais non, mais ça n'a rien coûté. On lui donnait juste un avertissement quand c'était clair que c'était dangereux son manœuvre.
Mais
Et
c'est
c'est ça, il y a plein de ces histoires. Et on dit, mais oui, c'est ça, il y a des pilotes qui se sauvent tout le temps. Il y a d'autres que des fois, c'est ça, ils se font pénaliser.
Mais c'est ça, c'est parce
Tout
qu'il y a, disons, c'est ça que je remarque, il y a une inconstance. Puis justement, l'autre point, ça m'amène à l'autre point. Charles Leclerc, encore une fois, malheureusement, avec son accrochage avec Lance Stroll au premier tour, alors que ce dernier avait gagné genre 7 places au départ, il arrive par l'extérieur du virage 4, puis Leclerc l'accroche, et puis c'est la fin de la course pour Stroll qui tape le mur. Mais là-dessus, il n'y a eu aucune enquête, il n'y a
Il n'y a
rien
rien.
eu, il n'y a rien eu. Et pourtant, il y en a beaucoup qui parlent, même Pastor Maldonado sur Instagram a jugé que comment ça se fait que Hamilton a eu des pénalités, entre autres pour l'incident en Autriche, la première course en Autriche où il accroche Albon, alors que Leclerc, pour presque la même chose sentir. Parce que si tu me dis y a c'est la même incident mais pas les mêmes situations, je peux comprendre. Mais tu dois être strict dans l'application des règlements. Je comprends qu'il y a une certaine application qu'il y a il y a un certain une marge de jugement aussi. Par contre, il faut être constant dans les règles, dans les décisions que tu prends. Parce que si tu dis, bon, une course, tel pilote a une pénalité pour un incident, puis là, puis dans un autre, sur un autre circuit, un autre Grand Prix, dans une autre situation, mais presque la même, un pilote commet le même incident, mais tu ne pénalises pas. Où est la constance? Et c'est ça qui va frustrer, c'est ça qui frustre le public, c'est ça qui frustre les pilotes comme Lewis Hamilton, c'est ce qui frustre les écuries. Donc, tu te dis, mais c'est quoi le vrai jugement? C'est quoi la vraie décision que vous prenez? Ça a été la même chose, par exemple, dans la... excuse-moi encore, Anna Maria. C'est la même chose dans la Premier League, où justement, c'est cette nouvelle règle demain a créé une controverse unique dans le match entre Tottenham et Newcastle, où tu as un joueur de Tottenham qui touche la main alors qu'il saute. Mais la nouvelle règle de la main dit que, genre, de l'avant-bras jusqu'à la main, c'est un pénalité automatique selon plusieurs variantes. Mais il y a une inconstance aussi là. Donc, il faut que la FIA soit. Je comprends qu'il existe plusieurs situations, mais il faut que tu sois strict dans plusieurs cas, en fait.
Oui, et c'est ce que je dis. Ben, des fois, le monde dit, oui, on veut que les pilotes, il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils les laissent faire sa course. On ne va pas pénaliser pour n'importe quoi. On va faire un petit peu plus relâché parce qu'il faut qu'ils se battent. On ne va pas retenir les pilotes pour tout et pour rien. C'est clair, mais je comprends. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas? Il n'y a pas de constance. Il y a des pilotes qui se font pénaliser pour n'importe quoi, même si c'est une petite faute, même si c'est pas sa faute. Parce que quand ton auto a une perte de contrôle, c'est pas ta faute.
C'est ça.
Oui, mais ce qui me surprend, c'est que pour l'incident de Stroll Leclerc, il n'y a même pas où. N'ont même pas dit on va regarder, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Si il y a des gens qui disent c'est le premier tour est plus mollo, on va pas tout, il se passe des choses, mais oui, c'est le premier tour. Oui, mais Leclerc, il savait que Stroll était en avant, hein. Il avait déjà dépassé, il était en avant. C'est roue à l'arrière contre roue en avant. Il y a pas de place gagnée pour l'éclair, rien. Et même que Stroll, il a laissé la place. Et tout ce qu'on voit en première vue, c'est les pilotes qui s'écrasent contre les murs. On dit, mais c'est quoi ce qui se passe? C'est un tête à coup, c'est quelque chose, et après on regarde, ah non, il s'est fait toucher pour aller, il s'est fait sortir comme ça, et les pilotes, ils s'en sortent, même pas une investigation, et les gens disent, mais oui, mais les premiers tours, peut-être ils sont plus mollo, mais oui, mais les premiers tours, tu les mets en investigation, et après tu peux dire, ok, on va laisser ça dans son incident de course, mais ils n'ont rien fait. Parce que celui de Hamilton, Albon, oui, c'était la 12e fois, parce que ça s'est passé avant en Brésil. Et il aussi était pénalisé, Hamilton, il ne s'est pas sauvé. Mais en Austrie, il est touché Albon, et c'était la même chose. Ce n'était pas le premier tour, pauvre, mais c'est après une relance qui s'est passée. Il était pénalisé. Mais dans ce cas-là, c'est ça que je dis. Et la FIA, il laisse trop de, comment c'est, il laisse trop de place à l'imagination. Oui, et la théorie du complot, oui, mais il nous donne des raisons aussi.
Oh non, moi
Mais
je suis pas
par contre, je
pas une
pense pas,
théorie du complot.
par contre, je pense pas que c'est contre Hamilton. Parce que c'est
Non.
clair qu'il a fait une faute. C'est pas parce qu'on va dire maintenant on va pas pénaliser. Parce que non, on va pénaliser, mais tout le monde, pas juste ça qui les convient.
Ouais. Et tu vois, moi je bon, c'est vrai que C'est vrai que bon, moi je pense que Leclerc là-dessus, il n'y avait pas d'incident. Je pense que c'est vrai que c'était un incident du premier tour. Je pense que c'était la bonne décision. Mais comme tu l'as dit, je pense que pour le bien, justement, pour éviter d'avoir des textes comme The Race, puis je dis pas que c'est de la théorie du complot autour, mais c'est une observation. Mais pour éviter d'avoir ces genres d'observations, ça aurait été bien d'enquêter sur cet incident pour au moins montrer que tu es transparent. Et bon, c'est vrai que, comme je l'ai dit, Leclerc, je ne pense pas que les deux pilotes, autant Leclerc que Stroll, étaient fautifs. C'est quelque chose qui a. C'est vrai que c'est un incident du premier tour. Mais pour le bien, ça aurait été bien de au moins voir les tenants et les aboutissants. Juste pour être sûr que, par exemple, ils ont les données télémétriques des deux pilotes. Alors, ils peuvent voir si effectivement il y a eu un problème ou un ou l'autre.
Mais
Mais oui, vas-y.
la question aussi, c'est que cette année, Leclerc, il a déjà fait la même chose avec Vettel. Mais il s'est en sorti pareil. Mais c'était les coéquipiers, les mêmes équipes, ils n'ont pas poussé pour l'investigation, rien, il s'est sorti. Mais c'était à peu près pareil. Et Vettel était en avant. Lui, je ne sais pas, il a vu un trou. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était quelle course.
Styrie, je
Lui,
crois.
c'est quelle la course. Lui était allé, mais c'était clair. Il a mis, parce que c'est pas la première fois que l'écran touche quelqu'un pour derrière.
Ouais.
C'était pas. Cette année, c'est pas la première fois cette année, c'est juste que il a touché Vettel, c'est ça. Mais il regarde, c'est quand on pense mal de la FIA, parce que oui, personne n'aime Vettel. S'est fait toucher, même si c'est lui qui s'est fait toucher, hein, c'est sa faute. Il n'y a pas trop.
Moi,
Je pense que même pas la fille. Bon, oui, c'est ça. La première chose qu'on pense quand on le voit, c'est ah, ouais, lui, il a fait une tête à goût, c'est normal, c'est ça. Mais et personne n'a rien dit. Mais il a touché, après, il éclaire, il fait son mea culpa. Oui, c'est ma faute, ok, j'ai désolé pour l'équipe. Mais oui, il fait ça tout le temps et ça se passe. Après, il dit c'est ma faute, c'est ma faute. Il pleure, mais personne ne le touche. Il faut qu'il apprenne, hein, qu'il y a une conséquence. Il n'y a pas de conséquence. C'est comme un enfant. Un enfant, il fait un mauvais coup, il pleure, tu ne donnes pas de conséquences. Il fait un mauvais coup encore, pleure, tu ne donnes pas de conséquences. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire la prochaine fois?
Ouais, mais dans ce cas-ci, l'incident dont tu parles, je pense que c'est la deuxième course en Autriche, le Grand Prix de Styrie. Je pense que ça, c'était
Oui.
accidentel. Je pense que.
Oui, mais c'est ça, mais c'était accidentel, mais ça s'est passé avec Stroll aussi. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut que quand ça passe une fois, c'est bien. Deux fois, trois fois, mais il faut que les pilotes aussi, ils apprennent un petit peu. Pourquoi? Parce que regarde, il y a des pilotes ils sont toujours à l'arrière, que c'était compliqué son départ et qui accroche personne. Disons, Stroll, il largue tout le temps en arrière, tu vois, il dépasse 5 autos, il ne fait pas trop de dégâts.
Ouais, non,
Mais il y
Stroll
a
a été
des pilotes
correct
qui
aussi.
poussent trop, qui attendent la dernière minute pour son freinage, c'est ça, c'est là qu'il se passe les choses. Oui, c'est pas sa faute, mais ça peut être évité. Mais oui, si toi, tu suis une auto avant toi, et lui, il freine, il fait un gros freinage, tu touches à l'arrière, oui, peut-être c'est sa faute pour le freinage, mais aussi ta faute parce que tu es en arrière. Il faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu laisses la place aussi.
Ouais. Et pour terminer, je peux rajouter aussi Lance Stroll, justement, dans ce même Grand Prix en Styrie, son dépassement sur Ricardo, très tardif. Là-dessus aussi, là, ça aurait même, personnellement, je pense que c'était très limite. Je pense que même si la FIA décidait de le pénaliser, je pense qu'il l'aurait mérité. Autant que il a été
Oui.
très limite sur le dépassement sur Ricardo. Mais encore là, si ce même genre d'incident devait arriver, j'espère que la FIA va mettre ses culottes pour être constant dans leurs actions, ou s'ils décident de donner une pénalité, d'expliquer que l'incident de Stroll, ou bien n'importe quel incident de ce même genre, a créé un précédent. Et c'est comme ça que la FIA pourrait gagner de la crédibilité en termes de transparence et de constance dans ses décisions sportives.
Oui, mais il faut regarder aussi que dans l'incident de Stroll, Ricardo, oui, il était limite, mais tu vois, c'est là que je dis que le pilote qui est à l'arrière, il prévoit. Parce que Ricardo, il savait qu'est-ce qui s'en venait. Son réaction, il était bien. Il s'est pas fait toucher, il a juste perdu sa position, c'est tout. Et personne s'est écrasé. Et c'est ça qui fait la différence. Quand toi, je pense qu'il y a deux pilotes qui se battent pour une position, oui, il se passe peut-être à la limite, toujours, ça se passe aussi des fois avec Verstappen, mais tout le monde est là, il continue. Mais ce n'est pas comme si, oui, tu as fait quelque chose, peut-être il était à la limite, mais il y a un pilote qui s'écrase et toi, tu continues ta course comme si de rien. C'est pas, de mon point de vue, c'est ça. Des fois, oui, il était limite. Leclerc, Verstappen, ils sont presque touchés à Austria l'année passée. Ils ont donné raison à Red Bull. Mais c'est ça. Il faut pas mélanger entre laisser les pilotes se battre et laisser les pilotes se toucher et s'écraser. Pas pénalité, pas investigation. On les laisse.
Oui, alors ça. Donc, on va voir est-ce que pour les prochains Grands Prix, est-ce que la FIA va être plus constante et tout. On verra cela. Mais
Est-ce que tu penses que la vaccine pour le COVID est prête? Mais c'est sur la fille, le gros problème, ça fait longtemps.
ah, ça, le vaccin contre la constance, ça, il faudra le sortir un jour.
Oui, il faut pousser pour donner à la fille parce que je ne crois pas que ça va revenir.
Ouais. On verra lorsque une situation comme celle d'Hamilton, une situation similaire à celle d'Hamilton devait arriver. Mais dans tout cela, on va parler enfin du Grand Prix en tant que tel, parce que dans la tourmente entre Lewis Hamilton, il y a Valtteri Bottas qui a gagné sa deuxième course de la saison, la première étant le premier Grand Prix de cette année écourtée 2020. En Autriche, Bottas a été très dominant, même si il est parti en deuxième place avec Lewis Hamilton qui a obtenu encore la pole position. Par contre, les deux pilotes avaient deux stratégies différentes. Hamilton a obtenu la pole, mais est parti avec les pneus tendres parce qu'il a réalisé son tour de qualif dans la dernière seconde avec les pneus tendres. Pour se qualifier à la Q3, et Bottas a fait son meilleur résultat, a obtenu la première place de la Q2 avec les gommes médium. Donc, il devait effectuer un relais un peu plus long que celui d'Hamilton sur les pneus tendres. Anna Maria, est-ce que tu penses que si Hamilton n'avait pas eu la pénalité, Bottas aurait quand même. Aurait offert un très très bon duel face à son coéquipier sur deux
Non.
stratégies différentes.
Non, je pense pas.
Non?
Je pense pas juste. Mais lui a pris, il a pris le départ, mais non, mais je pense pas. Pourquoi? Parce que même si Mercedes il dit qu'il les laisse battre, il les laisserait pas se battre. C'est juste ça. Et à chaque fois que vous demandez quelque chose à l'équipe, ils n'ont pas fait. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que oui, Bottas y a gagné parce que Hamilton n'était pas là. Mais si Hamilton y est là, c'est Hamilton qui amène la victoire, c'est sûr. Il n'y a pas question de se battre à Mercedes. Oui, peut-être il dit que oui, on le laisse se battre, mais non, on l'a vu déjà cette année. Bottas, il demandait stratégie différente ou faire le contraire que demandait ou qu'il faisait pour Hamilton. Ils n'ont rien écouté. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent. C'est sûr, je pense pas qu'avec Hamilton en avant, Bottas aurait gagné. Même s'il y avait des stratégies différentes, parce que c'est juste qu'il avait drapeau rouge, quelque chose comme ça, et Hamilton, il était, c'est là qu'il commence les problèmes pour lui à la qualification, parce que lui aussi, il voulait faire son tour rapide avec les gommes médiums, avec les médiums, mais non, il fallait qu'il mette les rouges parce que c'est ça, il n'y avait pas le temps, il fallait rouler et les moteurs Mercedes se réchauffaient. Rappelle-toi que Stroll aussi,
Ah,
il
le
avait des problèmes
pauvre.
parce que son moteur, il se réchauffait et finalement, ils l'ont dit, mais on ferme les moteurs, on abandonne, après on fera autre chose, une stratégie différente. Que ça marchait, par contre, parce que lui a gagné la place au départ, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais no, yo pienso pa, parce que no, y vont pas le laisser se battre. Y était preparé pour faire pour battre le record.
Ouais, moi je pense même
Mais Netflix était là, c'est ça
ah,
le problème.
je vais même plus entendre parler de la malédiction de Netflix parce que pour la
C'est
petite histoire.
officiel.
Ah, je déteste cette
Deux fois.
malédiction.
Et deux fois, c'est la même chose.
Ouais, exactement, parce que comme Anna Maria le dit, Netflix était là parce que Lewis Hamilton avait évidemment la chance de battre le record, ben, d'égaler le record pour le plus grand nombre de victoires en Formule 1, établi par Michael Schumacher, le record qu'il tient depuis 2006. Et Hamilton n'a pas pu le faire. Ceci étant dit, même sans les pénalités, je ne pense pas que Hamilton aurait gagné ce Grand Prix parce que justement, quand on regarde. Quand je regardais les données, en fait, le rythme, moi je pense que Bottas était beaucoup plus constant sur ses pneus qu'à Hamilton. Oui, il avait l'air libre, l'espace, tout l'espace Bottas, mais je ne pense pas que Hamilton aurait quand même eu la chance de gagner cette course parce que avec les pneus durs que les deux pilotes ont mis. Les pneus tendres avaient atteint leur pic de performance. Alors, c'est clair que Hamilton allait perdre du temps sur Bottas avec ses pneus médiums. Alors, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Hamilton ce qui veut dire Hamilton aurait été forcé de pousser comme il l'a fait en Hongrie l'année dernière pour aller battre Max Verstappen. Donc, c'est-à-dire un peu plus d'usure sur ses pneus durs, alors que Bottas, lui, aurait tout simplement été plus doux avec ses pneus pour réduire l'usure et être en mesure de rester un peu plus longtemps et de garder ses pneus, de garder de bonnes performances. Et malheureusement, je ne pense pas que dans ce cas-ci, Hamilton aurait été vainqueur. Et encore là, la question avec Max Verstappen, je ne pense pas que dans les deux cas, le pilote Red Bull aurait offert une belle bataille. C'est vrai que c'est sur papier, c'était intéressant avec sa deuxième place, mais je pense que ça aurait n'eût été de la pénalité d'Hamilton, on aurait eu un beau duel entre les deux pilotes Mercedes. Donc, Je pense qu'on aurait une belle bataille, mais je ne pense pas qu'Hamilton aurait remporté sa 91e victoire devant des partisans à Sochi.
Pas d'accord avec toi.
Non.
Non.
Donc, j'aimerais avoir votre opinion. Est-ce que vous pensez que Hamilton, sans sa pénalité, aurait gagné ce Grand Prix? Ou l'inverse, est-ce que Bottas aurait quand même eu un meilleur... aurait eu le dessus sur son coéquipier? Dans 2 semaines, ça va être pratiquement... Ben, je dirais pratiquement à terrain égal, même si tous les pilotes connaissent le Nürburgring, mais... On verra, c'est sur un nouveau circuit pour cette génération de voitures. S'il y a un pilote qui a impressionné autre que Valtteri Bottas, c'est Daniel Ricciardo. Ben, il y a Sergio Perez aussi qui a réalisé une excellente 4e place. Mais Daniel Ricciardo, pour moi, même s'il s'est fait dépasser par Perez, a connu une très bonne course parce que dans le contexte où il était derrière Esteban Ocon, qui a connu une course un petit peu plus difficile que son coéquipier australien. Ricciardo s'est pris une pénalité de 5 secondes pour avoir roulé sur les deux boudins et ne pas avoir utilisé la zone l'échappatoire du virage 2. Anna Maria, rapidement, qu'as-tu pensé de la performance de l'Australien qui, après l'annonce de sa pénalité de 5 secondes, a dit qu'il a tout simplement roulé plus vite, puis c'est ce qu'il a fait. Il a sécurisé sa 5e place.
Oui, mais j'ai pas doute. Lui, il le fait très bien. C'est ça là que ça commence à marcher depuis Spa, chez Renault. Il règle les problèmes. Ça, il n'est pas encore pour se battre pour la 4e place, mais Ricciardo, il fait bien. C'est lui qui est un peu difficile, c'est Ocon, parce qu'il va rester dans l'équipe. C'est pas lui qui s'en va, mais c'est Ricciardo qui fait toutes les meilleures performances. Ouais. Et là, il n'y a pas question de différence entre pilote, auto, il n'y a pas de bénéfice, rien. C'est juste que Ricciardo, il profite mieux de l'auto.
Mm-hmm.
Ça fait que lui, dans la dernière course, il est toujours en avant, il se bat avec les meilleurs des restes, qu'on l'appelle.
Oui.
Lui se bat avec les meilleurs des restes et ça laisse un peu dans la sombre à Ocon, qui en plus l'année prochaine, il va avoir, comme dit Beltrán, un client difficile.
Oui, Alonso, c'est un client très difficile. Tout dépendamment de l'âge, évidemment.
C'est ça. De toutes les façons, comme coéquipier, comme... C'est très difficile, c'est ça. Ouais. J'espère que Ocon va repartir parce que sinon, ça va être dur l'année prochaine. Mais Ricciardo est content parce qu'il arrive à McLaren qui va bien et il peut aspirer à faire des podiums.
Oui, ben justement, on va reparler de McLaren où, contrairement à ce que tu as dit en fin de semaine, ça ne s'est pas bien passé. Mais je pense que Ricciardo, finalement, a trouvé ses aises. La Renault, contrairement à ce qu'on avait dit la semaine dernière dans notre bilan de mi-saison, entame bien le début de la deuxième moitié de la saison. Et mine de rien, elle se retrouve... légitimement dans la bataille pour le 3e rang du championnat des constructeurs, parce que oui, McLaren a connu une fin de semaine horrible. Racing Point a perdu des points à cause de cet incident entre Leclerc et Stroll. Mais je pense que finalement, on peut dire que Renault reprend un peu de ses habitudes de ce qu'on a vu en 2018. Alors, ce que Ricciardo a fait lors du Grand Prix de Russie, c'était très bien. Il était complètement au-dessus de Ocon, puis même presque au même niveau que Perez. Alors, je suis très content de voir l'Australien finalement bien à l'aise avec cette Renault. Et il est en train de nous prouver le contraire de ce qu'on disait un peu. Ben, c'est vrai que c'est le début de la deuxième moitié de saison, mais depuis quelques cours...
Il y a encore du travail à faire, mais Mais au moins il y a quelque chose de solide. Hein.
Oui, exact. Puis quand on regarde Renault à 99 points, avec donc c'est 7 points. 7 points qui séparent McLaren de Racing Point avec 104 et Renault à 99. Alors, si l'écurie continue à aligner les bonnes performances, pas seulement de la part de Ricardo, mais aussi d'Ocon, qui doit livrer un petit peu plus que ce qu'il donne. Que ce qu'il donne habituellement, ben peut-être que Renault finalement va finir troisième.
Mais ça là c'est trop rapide parce qu'il faut compter qu'ils ont un peu d'handicap McLaren et Racing Point avec des incidents, des accrochages, des pilotes qui restaient hors de la course et ça fait trois courses deux courses qui sont un peu brouillons pour aussi pour Racing Point et McLaren qui ont perdu beaucoup parce que ça, les Grands Prix de Russie, c'est Sainz, ils font grosse bêtise aussi.
Ah, ben tiens, justement, on va parler de grosses bêtises. Carlos Sainz, abandon dès les premiers mètres, en fait, parce que, comme plusieurs pilotes, il a essayé de. Il est sorti large au virage 2 et a pris la zone d'échappe de dégagement. Malheureusement, il a roulé quand même vite, donc il a tapé le mur du côté gauche. Ce qui a carrément cassé la suspension et ça a été l'abandon direct. Et puis, petite statistique aussi, depuis son podium au Grand Prix d'Italie, il n'a complété que 5 tours. D'accord, l'incident en Toscane, il n'est aucunement responsable, mais en Russie, c'était juste c'était une erreur de jugement et ça a même ruiné en quelque sorte la course de Lando Norris parce que je pense qu'il a pris des débris, il a été obligé de s'arrêter dès l'entrée de la voiture de sécurité pour changer ses pneus. Alors, ce qui explique, et ensuite, je pense qu'il y a une baisse de performance de la part de McLaren, mais Carlos Sainz, ça a été son accident, c'est une. Il a même avoué que c'était une erreur de jugement de sa part.
Oui, c'est sûr que c'est une erreur, mais maintenant on mettait, je ne sais pas d'où ça sortit, si c'est la presse espagnole, ça mettait, il essaye de mettre ça sur le dos des murs.
Ouais.
Il faut changer la chicane, il faut faire quelque chose, mais oui, on fait quelque chose. Il est tout asphalté, aucun pilote y accroche le mur. C'est ça.
Ouais, moi je pense
C'est lui
personnellement.
tout seul, mais je
Excuse-moi.
pense que c'est pas un problème de mots. Si on veut pas, si on veut pas crocher, mais on sort pas de la ligne de course, c'est tout.
Ouais, mais je pense que ça, on s'entend pour dire. Ça, c'est total. L'accident de Sainz, c'est totalement de sa faute. Mais c'est vrai que cette zone en question, le virage 2 et 3, là, elle doit être changée. Je comprends, comme je l'ai mentionné dans le dernier article que j'ai mis dans le bulletin F1, là, dans le top et contre-performance. Il y a le défi aussi, parce que Sochi, c'est un circuit presque semi-permanent. Parce que c'est un circuit qui est situé aux alentours des installations olympiques des Jeux d'hiver de 2014. Mais moi, je pense que la zone de dégagement, l'échappatoire, est très mal située parce que quand on regarde un incident comme celui entre Sébastien Vettel et Romain Grosjean, les deux se tapent et Grosjean, il décide de respecter la consigne pour éviter de se prendre une pénalité de 5 secondes. Il détruit carrément les panneaux de styromousse. Donc, et c'est pas la première fois qu'un incident comme ça arrive. Il y a 5 ans, Artem Markelov, en Formule 2, GP2, a eu ce même accident. Puis même l'année dernière, tu avais Jack Aitken, Nikita Mazepin et Nobuharu Matsushita qui ont eu un violent accident à ce virage parce que il y avait deux pilotes qui ont tapé le. Parce qu'ils ont pris la zone de dégagement à presque à la même vitesse que Sainz, Mais t'as Aitken qui accroche Mazepin dans la zone de dégagement. Donc, tu te dis, oui, Sainz aurait dû rouler lentement, même si c'est le premier tour. Mais quand même, je pense que la FIA va devoir trouver un moyen de mieux gérer cette zone d'échappement parce que ça a été un cauchemar depuis des années.
Oui, j'ai une solution facile, c'est juste sortir sortir des calendriers, c'est tout.
Ouais, je pense que
Pour moi, ce serait facile, tout régler les problèmes, c'est tout.
Je suis d'accord, même si j'adore le circuit de Sochi.
Non, il n'y a personne qui adore ça.
Oh, bon, ben, je dois être le seul au monde alors.
Les seuls au monde.
Moi, puis probablement un certain Vladimir. D'ailleurs, qu'on n'a pas vu
Ah
d'ailleurs. D'ailleurs, qu'on n'a même pas vu en fin de semaine, puis tant mieux. On va parler un peu, on va parler de Daniil Kvyat parce que on n'en parle pas beaucoup du Russe. Là, c'est son Grand Prix à domicile. Puis là, on fait une bonne performance. Termine devant son coéquipier Pierre Gasly. Bon relais avec les pneus durs. Il a commencé avec les pneus durs. Je pense qu'à un moment donné, il s'était rendu jusqu'à la troisième place. Et ensuite, a fait. Il s'est presque. Il est passé proche de dépasser Esteban Ocon dans le dernier tour. Que penses-tu de la performance du Russe?
Oui, il va bien, mais il n'est pas constant non plus. Les deux Toro Rosso, ils sont pas constants. Quand ils ont la chance, ils profitent, mais sinon, des fois, ça va pas très bien. Mais aussi, Kvyat, ça va bien, mais je pense qu'il reste pas beaucoup, il reste pas beaucoup dans la Formule 1, hein, parce qu'il y a des nouvelles pilotes qui sont prêts à monter aussi. Et que oui, il va bien maintenant, mais c'est un pilote qui, quand il sort des performances, des bonnes performances, mais il n'y a pas la constance. Je pense que c'est là à peu près. Gasly, il est correct aussi dans son. Et Alpha Tauri, ça va bien, mais c'est un pilote qui, je pense qu'il faut le laisser là, parce que dès que tu le montes dans la Red Bull, ça change tout. Et Kvyat, oui, ça va bien, il fait des bonnes performances. L'année passée, il a fait un podium aussi, mais je pense pas qu'il va rester longtemps. Parce que je pense que son contrat, ça expire cette année. Il y a
Je
des
pense
nouvelles
aussi.
pilotes qui s'en viennent.
Ouais, on parle entre autres de Yuki Tsunoda, pilote qui
Oui.
roule chez Carlin, qui appartient à Red Bull. Donc, peut-être que lui aura un volant chez Toro Rosso. On verra ce qui va se donner. Mention honorable à Antonio Giovinazzi, 11e. On sait que l'Italien est quand même sous pression parce que on a annoncé cette semaine que il y a Mick Schumacher pour Alfa Romeo et Callum Ilott chez Haas qui vont participer aux essais libres du vendredi matin lors du Grand Prix de l'Eifel au Nürburgring. Puis il y a Robert Schwarzman aussi à Abu Dhabi qui va participer à la FP1. Alors dans cette course, Giovinazzi qui s'est qualifié quand même très loin 17e. Je l'ai vu quand même, on l'a vu quelques fois, mais il a été solide quand même, je pense.
Oui, mais comme tu dis, il est presque dehors aussi, parce qu'il y a des pilotes qui s'en viennent, et il y a une nouvelle pour As, une nouvelle pilote pour Alfa Romeo, et c'est deux Ferrari qui vont mettre là-dedans, mais peut-être ils vont laisser pour, je sais pas, pilote de développement ou quelque chose, mais je pense pas qu'il va rester l'année prochaine. En plus, c'est comme la même situation que Kvyat. Il s'est déjà fait mettre dehors aussi. Il était appelé parce qu'il n'y avait pas de relève et ils l'ont mis sur la Alfa Romeo. Mais dès que Mickey arrive, c'est sûr que il Y va para este, parce, que c'est un pilote de Ferrari, c'est ça. L'autre, c'est Kimi. Si Kimi reste pas, c'est ça, ils vont chercher quelqu'un qui apporte quelque chose.
Sergio Pérez,
Tu
peut-être.
comprends qu'est-ce que je parle?
Ouais, peut-être
Il faut qu'il
Sergio Pérez.
apporte quelque chose.
Ouais, mais je pense aussi que oui, on dit Giovinazzi, peut-être que lui c'est terminé. Je pense qu'il en a, il en a encore, mais c'est juste que parfois.
Oui, mais c'est ça. Lui, il pourrait avoir encore, mais si lui n'a pas démontré une grosse performance, c'est sûr qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre, parce que c'était pas lui le premier dans la liste.
Non, c'est ça. C'était pas lui, c'est parce que je pense, ben, je dirais pas que c'était pour remplir les sièges. Je pense que il nous l'a prouvé aussi l'année dernière, en deuxième moitié de saison, que il a le potentiel. Parce que oui, il a gagné, il a été vice-champion de GP d'Or 2016 derrière un certain Pierre Gasly. Mais je pense que et en plus c'est pas comme s'il avait de la pression, il avait beaucoup de pression. Je comprends que il y a des pilotes de l'Académie Ferrari qui sont très proches, mais je pense que Giovinazzi a ce qu'il faut pour être un pilote solide au milieu de peloton. Oui, la Alfa Romeo, ok, elle est un peu mieux que ce que c'était en début de saison, mais quand même, je pense que Giovinazzi a des opportunités de montrer ce qu'il vaut en Formule 1. Malheureusement, ce qu'il a ces deux accidents en Belgique, je pense, c'était clairement des erreurs de pilotage. Et là, il nous sort une belle performance à Sochi, où il se retrouve dans la lutte pour aller chercher au moins un point. Peut-être, je dirais même pour la 11e place, parce que ça aurait été bien, et surtout dans une course où Kimi Raikkonen a eu un peu de difficultés en plus. Alors, quand Giovinazzi nous sort de ce genre de résultats-là, moi, ça me rend heureux. Mais je pense que pour cette année, les carottes sont cuites pour l'Italien.
Oui, c'est sûr. Il y a quelques-unes que cette année, c'est dur.
C'est dur pour pas mal. C'est dur.
Oui, il y a un Romain Grosjean qui aussi. Et elle est dernière. Okay.
Oui, Romain Grosjean aussi, dont.
Il était 0 points et rien. C'est lui, il s'est battu avec Russell et Latifi.
Ouais, puis il s'est battu aussi contre Sébastien Vettel aussi. Un beau duel, mais qui s'est, comme je l'ai dit, c'est terminé en fait. En démolissant le panneau de styromousse de ce fameux virage 2, mais malheureusement, il finit entre les deux Williams. Et pour terminer, en fait, on a eu une belle bataille entre Alex Albon, Lando Norris et George Russell, les trois mousquetaires de l'édition 2018 de Formule 2, puis trois des quatre membres du quartet de Twitch sur les
Oui, c'est ça.
internets. Mais moi, je pense que ça a été le moment fort aussi, une belle bataille. Trois pilotes qui sont très bons. Russell, on sait quand même, on sait tout le potentiel qu'il a. Lando Norris, on savait déjà. Alex Albon aussi. Donc, ça a été le moment fort positif de ce Grand Prix de Russie.
Oui, c'est de... C'est des pilotes qui. Ouais, mais au moins Norris, il peut se battre en avant.
Ouais, oui,
Au
lui.
moins Norris, il peut se battre en avant, mais.
Alex Albon
Russell,
parfois
si
aussi.
t'as. Comment?
Alex Albon parfois aussi.
Oui, Alex Albon aussi, quand il fait son travail, il faut remarquer aussi qu'Albon, il y a beaucoup de fois, il lance de l'arrière. Hein?
Ouais.
Parce qu'il y a pénalité des moteurs, je pense que lui. Il est beaucoup pénalisé aussi à cause de qu'il n'y a pas l'expérience non plus. Mais c'est ça, il fait des petits erreurs, mais quand il faut faire le travail, il fait le travail, il roule en avant, il sait battre. Mais c'est sûr que Russell, c'est dans notre ligue.
Ouais, le
Il
pauvre.
oui, lui, il fait du.
Ouais. Ah, ben tiens, je pense à ça. On n'a pas parlé de Ferrari. Non, 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 vous en faites pas, je vais pas me moquer de Ferrari, en fait. Je pense que c'est même. J'ai même plus besoin de me moquer d'eux parce que là. À ce moment-ci, là, on sait déjà à quoi s'attendre de Ferrari. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu sur les internets, en fait, il y a le pauvre Mattia Binotto
Ouais.
qui s'est retrouvé en
Il y a
bordure de route.
rien qui marche, y a rien qui marche.
Ouais, le pauvre, il s'est retrouvé en bo Binotto s'est retrouvé en bordure de route parce que sa Alfa Romeo, je pense, a eu des problèmes. Puis
Il a tombé pas.
il y a un fan qui l'a, il y a quelqu'un qui l'a filmé en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il se disait. C'était en italien là,
Il demandait qu'il s'en va à Maranello ou quelque chose comme ça. Il a dit, bah, il attendait les remorquages.
Ah, ok.
C'est ça. Il a crié que si tu t'en vas à Maranello, qu'est-ce qui se passe? Il fait des signes comme quoi il attend, il attend. Et après, je ne sais pas si tu as regardé, il y avait une autre vidéo quand il se fait remorquer.
Ah non, ça je l'ai pas vu.
Tu n'as pas vu? Oh, t'as manqué ça.
Ah, tu me l'enverras en privé. Tu me l'enverras en
Oui.
privé. Mais sinon, au moins, Binotto a vu Charles Leclerc. Malgré ce qu'on a dit sur l'incident avec Lance Stroll, terminé sixième, des points pour Ferrari qui doit se battre maintenant contre AlphaTauri pour la sixième place. Jamais dans ce podcast j'aurais à dire ça. Oh, je crois que j'ai perdu la connexion avec Anna Maria, mais tout ça pour dire que oui, Charles Leclerc a terminé sixième, en fait, alors qu'on a retrouvé Anna Maria. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
J'ai poussé sur le mauvais bouton.
Ah! Justement, bon, on va se moquer. Ça c'était un peu digne de la saison de Ferrari. Donc, c'est ça, je disais, Charles Leclerc a terminé sixième. Un très bon départ de la part du Monégasque, alors qu'il a été éliminé en Q2.
Non, c'était pas un bon départ.
Bon, ok,
Il a fait des dégâts.
ouais, il a fait des dégâts, mais il s'en est tiré, même si je pense que c'est
Il
un
s'est
incident de
retiré,
course.
c'est plutôt ça.
Mais en général, il a quand même mis de la pression sur les Renault, même si Daniel Ricciardo est allé chercher 5 secondes de plus pour éponger la pénalité qu'il avait prise. Mais sinon, je pense que le Monégasque a connu un bon dimanche.
Lui, mais pas les autres. Pas quelqu'un qui s'est fait accrocher pour Oh, ouais, il y a quelque chose. Le nouvel aileron, il a tenu le coup pour aller dans les points, au moins.
Oui, parce que
Parce qu'ils ont mis une petite chose, ils ont dit, on ne change rien d'ici l'année prochaine. Mais c'est ça.
Ferrari
Pas
avait
grand-chose à dire.
c'est ça, parce que Ferrari avait des nouvelles pièces aérodynamiques, en fait, dites secrètes, mais l'accident de Sébastien Vettel lors des qualifs a pas mal tout dérangé, en fait, alors. On sait maintenant où se trouvent les nouvelles pièces aérodynamiques. Et parlant de Vettel, ben malheureusement, ça me fait le plus mal, c'est de voir Vettel se battre pour des places au milieu de peloton là. C'est pas normal. Il n'est pas dans une Toro Rosso, il est dans une Ferrari. Je sais que la Ferrari est pas très bonne, mais Vettel fait du mieux qu'il peut pour amener cette Ferrari dans les points. Mais malheureusement, il fait tout ce qu'il peut. Le plus haut qu'il s'est rendu lors de cette course, c'est septième. Là, parce que tout le monde commençait à s'arrêter. Lui, il était sur la même stratégie que Leclerc. Alors, je pense que c'est vivement 2021 pour Vettel avec probablement, il va probablement rencontrer Daniel Craig quand il va conduire des Aston Martin.
Oui, il va juste. Ah non, je pense qu'il a hâte que ça finisse.
Ouais.
Et ça finisse, et juste remplir son compromis à chaque course, et après, c'est ça, il n'y a rien à faire.
Ouais, alors c'est ça. Moi, j'ai comme. Je sais que je me suis beaucoup moqué de Ferrari au cours de l'année, mais là, je suis rendu à un stade où. C'est plus nécessaire de. C'est plus nécessaire, en fait, de frapper sur quelqu'un qui est déjà à terre. En fait, non, c'est pas que je
Oui,
frappais
c'est ça.
quelqu'un, là, mais c'est juste parce que. En vrai, là, j'ai mal pour les pilotes parce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Alors, c'est juste les décisions de Ferrari qui sont très
Non,
douteuses.
c'est juste qu'il sait pas clair. Ils reviennent après des années. Ils disent, oh, ça fait, je sais pas, 4 années qu'on a manqué ça, l'auto.
C'est ça.
C'est ça, je dis, ok, c'est ça.
C'est ça.
C'est 4 années après, tu dis que c'est vous avez raté le travail, même que le boss, c'est lui qui faisait le travail.
Il va partir.
Oui, c'est ça, c'est l'ingénieur, lui, il dit que non, ils se sont trompés. Ça fait longtemps qu'il se trompe.
Ouais. Et là, juste à regarder le classement, sixième à genre 25 points de Renault. C'est carrément une victoire, ça. C'est une victoire.
Mais regarde, la bonne chose, c'est que Renault a dit, on se bat contre Ferrari. Mais oui, ils sont là.
C'est ça. Ferrari.
Et son objectif est là.
Ah oui, ben écoute, Renault va pouvoir au moins se targuer d'avoir
Mais
battu Ferrari.
oui, vont être contents de ça. Hein? Mais la seule chose, c'est que Ferrari ne se retrouvait pas trop en avant. C'est ça, les
Exact.
Mais par contre, c'est ça.
Donc, vivement 2021 pour Vettel, ou probablement vivement le Grand Prix de l'Eifel au Nürburgring dans quelques jours. Alors, on va compléter cela avec Ferrari, en fait. Alors, c'est ce qui met fin à cet épisode numéro 56 du bulletin F1. Alors, il n'y a pas de Grand Prix cette fin de semaine. On va essayer d'avoir un podcast pour la semaine prochaine pour parler un peu de l'actualité de la Formule 1. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez nous écouter sur notre site bulletinf1.com où vous avez tous les autres épisodes de notre podcast ainsi que la petite série Histoire de F1 qui retrace les histoires inusitées ou mémorables dans l'univers de la Formule 1 et un peu à côté, mais qui touche la Formule 1. Donc, c'est sur bulletinf1.com et il y a une section podcast. Il y a aussi tous nos articles revenant sur les courses, des avant-goûts, quelques chroniques aussi écrites. Et vous pouvez écouter ces podcasts sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher et toutes les plateformes de podcast préférées. Surtout qu'on enregistre cela le jour international du podcasting. Alors, quel bon moyen de célébrer cette fête du podcast en enregistrant le podcast. Sinon, si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez le faire sur facebook.com/bulletinf1, sur Twitter, @lebulletinf1, en un seul mot, ainsi que sur Instagram où on est aussi là, présent quelquefois, @lebulletinf1 aussi. Alors, Anna Maria, un grand merci d'avoir été là.
Et merci à toi et à tout ceux qui nous écoutent.
Exact. Et puis, si je peux dire, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Alors, Je sais que c'est, il y aura pas grande
De
fête.
Ferrari, même si vélo, c'est toute année, mais.
Ouais, exact. Mais j'espère que je vais probablement m'offrir un gâteau Ferrari ou un cadeau, un truc de Ferrari. Je vais le prendre quand même. J'aime bien Ferrari comme malgré leur malgré leur situation, on va dire. Alors,
Oui.
donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Bulletin F1. Mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin F1. Et comme le dit Valtteri Bottas, non pas to whom it may concern, mais bien never give up. Bonne soirée ou bonne journée, peu importe où vous êtes, et à la semaine prochaine.